Merci beaucoup. Ben voilà, on a pas bâillé. Vous savez, Frédéric Seitz, lorsque le livre des commémorations est paru, livre que j'avoue, on ne lit pas chaque année, on s'est dit qu'on allait bâiller, alors que pas du tout, puisque la polémique fait rage, notamment au sujet du fait de savoir s'il faut ou non commémorer Charles Maurras. Alors là, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a tranché. Et pour discuter cette fois-ci du sens général des commémorations, nous sommes en compagnie d'Olivier Dard. Vous avez notamment publié un Charles Maurras, le maître et l'action, c'est chez Armand Collin. À côté de vous, un autre historien, Christophe Prochasson. Vous êtes président également de l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez publié les grandes dates de la République. Je suis allé dans mon Larousse, j'ai vu que commémorer, c'était célébrer par une cérémonie le souvenir d'un événement important. Mais pour vous, pour l'historien que vous êtes, Christophe Prochasson, quel est le sens d'une commémoration?
Bah écoutez, Guillaume Erner, je ne voudrais pas critiquer votre excellent choix d'invitation, mais je ne suis pas sûr que les historiens soient les mieux placés pour décréter ce qu'on doit ou pas commémorer. Et il me semble que cette confusion entre le rôle des historiens et le rôle de celui qui dit ce qu'on doit commémorer explique beaucoup les polémiques autour du cas Maurras. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une commémoration? Alors je sais qu'on fait des distinctions sémantiques, lexicales, subtil entre commémoration et célébration. D'ailleurs, c'est le haut comité qui s'est d'abord, je crois, appelé association, s'est appelé célébration nationale avant de s'appeler commémoration nationale. Je pense que ce sont des distinctions un peu trop subtiles. En réalité, on voit ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un acte politique. Parce que c'est ça une commémoration, c'est un acte politique. On se souvient ensemble, d'accord, mais pourquoi? Comment? Dans quel contexte? Avec qui? Et la commémoration,
je ne veux pas vous embêter en vous posant une question supplémentaire, Christophe Prochasson, mais je vais vous demander ce qu'est un acte politique.
Ben, un acte politique, c'est un choix qui permet à une communauté de se retrouver autour d'une vision commune. C'est comme ça que j'entends acte politique. Et il est clair que dans une commémoration, en fonction des choix, on trie, on élimine, on accepte, on dit quelque chose. Et le malentendu, qui, appelons-le ainsi, sous bénéfice d'inventaire, comme on dit, le malentendu autour de Charles Maurras réside précisément sur ce point-là.
Est-ce qu'il faut que la communauté nationale se réunisse autour de gens qui sont parfois des saints, parfois des affreux?
Alors, voilà, en fait, dans les commémorations, il suffit de prendre ce livre, on a plusieurs catégories de commémorations possibles, qui sont plus ou moins faciles à digérer,
bon,
si j'ose dire.
Apollinaire ne pose pas...
Non,
pas
mais
problème.
Avant même, il y a d'abord des événements qu'on peut commémorer. Il n'y a pas que des personnages, hein, si vous prenez le livre. Il y a beaucoup de personnages, mais il n'y en a pas seulement que des personnages. Il y a des événements de nature différente d'ailleurs. Certains sont politiques, d'autres culturels. Je voyais, ça m'est très sympathique d'ailleurs, que l'on commémorait aussi les baisers volés de Truffaut. Et puis, il y a aussi, en l'occurrence, des commémorations d'institutions. Par exemple, l'école pratique des hautes études, qui m'est chère, qui est la petite sœur, la grande sœur de l'école des hautes études en sciences sociales, qui est commémorée pour son 50e anniversaire cette année. Donc, il y a des commémorations de types différents et donc de natures différentes. Et donc, quand on les commémore, on dit des choses différentes.
Mais est-ce que vous défilez quand même pas un peu facilement, Christophe Prochasson? Parce que on pourrait très bien dire, bah voilà, vous êtes historien, finalement, vous savez de quoi le passé est fait et vous avez la capacité de savoir ce qui a fabriqué le présent dans ce passé. À partir de ça, eh ben, on peut savoir qui il faut commémorer.
Non, parce que dès lors, moi j'apporte, les historiens apportent du matériau, éventuellement, on peut dire comment les choses se sont passées, autant que faire se peut, quels étaient les éléments d'une pensée. Mais après, il y a un choix à faire, un tri à faire. Et je le répète, ce tri-là est de nature politique, puisque le livre, en l'occurrence, est préfacé par la ministre Nyssen, qui est une femme politique, qui assume une politique et qui fait des choix. Et c'est sur ce point, je crois, qu'il faut insister. Alors, la question se pose, si je vais jusqu'au bout de mon... Je ne me défile pas, Guillaume Erner, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est la question de savoir s'il faut des historiens dans le Haut Comité des commémorations nationales.
Même tarif pour vous, Olivier Dard.
Même tarif, oui. Écoutez, non, moi, je souscris à ce que disait Christophe Prochasson sur... Effectivement, la relation des historiens à ces questions de commémoration. Nous, au fond, notre métier, et je crois que c'est ça qui est très important, c'est de ne s'interdire aucun tabou, aucun sujet. Donc, de ce point de vue, tout est objet d'histoire. de tous les côtés possibles et imaginables. Deuxième élément, je reviens sur la question effectivement de la définition. Moi aussi, je suis allé voir pour commémorer. J'ai vu, comme vous, célébrer, fêter. Mais j'ai vu aussi rappeler, remémorer. Bon, je crois qu'on est effectivement devant des mots qui mériteraient peut-être d'être précisés pour savoir réellement ce que l'on veut faire. Mais, en l'occurrence, encore une fois, ce n'est pas l'affaire des historiens. En l'occurrence, dernier point qui me paraît important, ce qui rend les choses en plus très compliquées dans le cas français, et tout particulièrement dans cette France du XXe siècle, c'est à quel point les mémoires sont fracturées. Et ce n'est pas nouveau. Si vous relisez un livre qui est devenu un classique, Le syndrome de Vichy d'Henri Rousseau, on rappelle par exemple qu'il n'a pas été possible de définir une date pour commémorer la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà un désaccord sur la guerre d'Algérie, il y a des désaccords partout. Alors effectivement, que les responsables politiques prennent leurs responsabilités, les historiens, eux, travaillent sur l'ensemble de ces questions. Ce qui ne leur interdit pas, évidemment, à titre personnel, d'avoir telle ou telle position, mais ça n'offre, au fond, aucun intérêt pour le sujet qui nous occupe ici.
Bon, je vais quand même revenir à la charge avec vous, Christophe Prochasson. On peut dire quand même que Maurras, au vu de l'importance intellectuelle qu'il a eue, on peut le déplorer, mais c'est un fait, il a inspiré, d'une manière ou d'une autre, des gens aussi différents que Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Moulin. Alors ensuite, Cordier a renié Maurras, mais dans sa jeunesse, il était maurrassien. François Mitterrand a été maurrassien. Non. Proust, non, vous dites non.
Non, il était plutôt volontaire national. Mais bon. Enfin bon.
Enfin, en tout cas, c'est une génération qui a lu Maurras. Impossible à cette époque de ne pas l'avoir lu. Et à cet égard, on peut dire, ben voilà, il est normal que cet homme qui a été plus important, moi ça me fend le cœur, mais qui a été plus
Guillaume
important.
Merner. Non, je pense que là, excusez-moi, je vous interromps, je pense que précisément vous confondez deux choses. On ne peut pas mettre sur le même plan l'importance historique d'un personnage qui est incontestable dans le cas de Maurras, et même un essayisme, car il s'agit bien de cela, c'est pas une œuvre littéraire, c'est même pas une œuvre philosophique, c'est vraiment un essayisme politique de talent, c'est incontestable, qui a pesé parce que, justement, il y avait du talent. On ne peut pas mettre ça sur le même plan avec l'acte politique, excusez-moi, je reviens là-dessus, qui consiste à sélectionner un certain nombre de personnages, d'événements, d'institutions qui, au niveau de l'État, et qui méritent qu'on s'en souvienne, parce que c'est en quelque sorte, cette mémoire constitue le socle de l'État. Et ça, c'est une autre affaire. Et je pense, pour aller jusqu'au bout, je pense que choisir Charles Maurras relevait d'une grande maladresse. De même, la question, on peut faire un tout petit peu d'histoire, en l'occurrence, il y a eu d'autres événements aussi, d'autres choix qui ont suscité le même type de polémique, le cas de Céline en 2011, par exemple. Encore que dans le cas de Céline, je serais peut-être plus nuancé parce que Céline est porteur d'une œuvre littéraire qui effectivement fait partie d'un certain patrimoine. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Charles Maurras, qui est un pur politique.
On va poser la question à Olivier Dard, qui a fait sa biographie.
Je tiendrai là-dessus.
Olivier Dard,
quelqu'un qui a joué un rôle politique et dont l'œuvre littéraire, ou même, je le répète, l'œuvre philosophique, n'a pas une dimension patrimoniale de l'ordre de celle d'autres auteurs, je pensais Céline. Mais pensons aussi, encore plus loin, avec le fameux millénaire capétien, qui, dans les années 80, avait suscité aussi beaucoup d'émotions, parallèlement, en concurrence presque, avec le bicentenaire de la Révolution française.
Mais là, évidemment, pour d'autres raisons. Olivier Dard, vous avez fait une biographie de Charles Maurras. Vous ne voulez pas défendre ce personnage historique sur lequel vous vous êtes penché?
Le biographe n'a pas à défendre.
J'étais sûr que vous alliez me répondre
mais
ça.
Bien entendu, mais si vous voulez, on n'est pas au tribunal, on n'est pas des avocats, on n'est pas des procureurs. Bon, maintenant, effectivement, je crois, et Christophe Prochasson le rappelait très bien, Maurras a été un personnage incontournable, vous le disiez, et d'autant plus intéressant qu'il a été incontournable pour un certain nombre de ses partisans, mais également pour ses adversaires. Dans L'enfance d'un chef, Sartre met en scène le camelot du roi. C'est très révélateur, si vous voulez. Et le procès de Maurras qui lui est fait à la Libération, c'est le procès du mauvais maître, c'est de considérer que c'est lui qui aurait, disons, impulsé très directement la politique de l'État français sur toute une série de dossiers. Thèse que d'ailleurs Maurras a reprise à son compte, thèse qui, en revanche, du point de vue historique, est tout à fait contestable parce que c'est donner beaucoup trop d'importance à Maurras et beaucoup plus d'importance qu'il ne pense en avoir lui-même sur toute une série de dossiers de la politique de l'État français à laquelle, eh bien, lui et les siens n'ont pas été directement associés parce qu'ils n'avaient pas d'ailleurs forcément pu et su former les élites capables de justement préparer un avènement aux affaires.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Maurras est à minima responsable d'un climat intellectuel qui a donné naissance à la révolution nationale vichyste ?
Alors, il a, effectivement, il joue dans les années d'entre-deux-guerres un rôle extrêmement important, mais si vous voulez, pour être clair, c'est un peu la conclusion de mon livre, l'influence de Maurras, elle est davantage culturelle que politique. Alors, c'est une influence évidemment importante, une influence qui s'exerce dans un contexte qui est particulièrement tendu, et puisque nous parlions de la question de l'antisémitisme est quelque chose de particulièrement répandu en France, dans la France d'avant 1940. La révolution nationale n'arrive évidemment pas dans un contexte serein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, de ce
il aurait pu le renier comme Bernanos l'a fait après la Seconde Guerre mondiale.
Non, parce que si vous voulez, Maurras... Non mais d'abord là, pour le coup, là, j'ai envie de vous dire, vous ne connaissez pas bien Maurras. D'abord, c'est quelqu'un qui reste, j'allais dire, continuellement, non seulement fidèle à ce qu'il a été, mais je dirais plus important que ça encore, c'est quelqu'un qui revient toujours sur les prémices, qui repart toujours des prémices. Et par exemple, au moment de son procès...
Vous dites qu'il revient toujours sur les prémices, mais sur la question juive, il a évolué, Maurras, puisque après la guerre de 14-18, oui, il évolue. C'est-à-dire que la doctrine des juifs bien-nés, qui est une doctrine absolument dégoûtante, hein, est une doctrine qu'il va façonner après cette guerre-là, après qu'il ait vu que les juifs se sont battus et sont morts d'ailleurs, puisque il faut aussi rappeler que certains professeurs juifs sont morts en disant qu'ils voulaient laver l'honneur de Dreyfus. Donc, ça n'est pas vrai de dire que Maurras est une épée qui ne varie jamais.
Non, enfin, si vous voulez, par rapport à la question de l'affaire Dreyfus, quand l'affaire revient sur le devant de la scène au début des années 30, et là, Christophe, je pense, ne me contredira pas, Christophe Prochasson, quand Blum va écrire les souvenirs sur l'affaire et que Maurras, lui aussi, réécrit sur l'affaire Dreyfus, on a l'impression que rien n'a changé. Oui. Et quand, à la fin de son procès, et c'est là où c'est très intéressant, il dit c'est la revanche de Dreyfus, en réalité, vouloir comprendre, si vous voulez, les positionnements de Charles Maurras pendant la guerre par rapport à une quelconque relation à l'hitlérisme, c'est ne pas comprendre d'où vient cet homme qui va penser qu'effectivement la révolution nationale avec le maréchal Pétain est une divine surprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? C'est pas la divine surprise, c'est pas la défaite de la France, mais c'est la possibilité qui lui serait offerte, évidemment, d'éradiquer une république détestée, la gueuse, pour parler en langage maurrassien. Simplement, si vous voulez, entre les prétentions de Maurras pendant la guerre, ce qu'il écrit, le rôle dont il se targue, y compris dans sa propre prose, si vous voulez, dans les récits et les écrits qu'il a pu faire ensuite, et la réalité des choses et son influence effective sur le maréchal Pétain et sur l'État français, là je crois qu'il y a des distances à avoir.
Christophe Prochasson, là-dessus.
Non, pour suivre Olivier Dard, je crois qu'il n'en est jamais sorti de l'affaire Dreyfus d'une certaine façon, que c'est quelque chose qu'il a totalement hanté. Je pense que d'une certaine façon, il y a deux choses qui le structurent. C'est la Révolution française, qui est pour lui la première des catastrophes, et son d'une certaine façon redoublement dans l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire de nouveau le triomphe des Lumières et la réhabilitation de Dreyfus, pour lui une défaite fondamentale. Donc ça, je crois que c'est un point important. On n'a peut-être pas assez insisté sur aussi sa germanophobie,
enfin, c'est-à-dire ce
nationalisme anti-allemand, profondément anti-allemand, qui fait que, certes, il inspire Pétain, certes, il est un des théoriciens de Vichy, mais il est dans une position très délicate, d'ailleurs, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, parce que, ne l'oublions pas, c'est un homme qui est d'une génération qui a pensé la revanche, qui a vécu la guerre de 14 aussi, et tout cela est constitutif.
Mais qui ne le fait pas sombrer néanmoins dans la résistance, puisque non, beaucoup de Maurrassiens vont résister, honorer l'Étienne d'Ordre,
oui,
bien par sûr. Exemple. Lui, en revanche, se garde bien de franchir cette ligne.
Oui, alors c'est compliqué, mais je crois qu'effectivement Christophe Prochasson a raison par rapport à la germanophobie. Là, la question, pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, Maurras est complètement du côté de l'Union sacrée. On a oublié d'ailleurs les liens qu'il a pu avoir, notamment avec le président Poincaré, c'est intéressant, on a une correspondance. Donc ce qui prouve aussi que c'est un homme très inséré, malgré tout, dans un certain nombre de réseaux. Mais pendant l'entre-deux-guerres, il y a deux choses qui sont importantes pour lui. D'abord, il est consterné par le traité de Versailles, parce qu'il aurait voulu que l'Allemagne fût démembrée, premier élément. Il s'inquiète, et l'Action française avec lui, assez tôt, dès le début des années 30, de la montée en puissance de l'hitlérisme en Allemagne. Il dénonce Mein Kampf, mais il ne dénonce pas évidemment Mein Kampf comme on le ferait aujourd'hui par rapport à la question de l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce qui l'inquiète dans Mein Kampf? C'est la menace qu'il fait peser, que l'Allemagne nazie fait peser sur la France. Et enfin, effectivement, arrive la période de la guerre, où il est à la fois, et je reconnais que c'est compliqué sans doute pour vos auditeurs, mais l'histoire n'est jamais simple, il est pétainiste. Et pas maréchaliste, il est pétainiste avec tout ce que ça implique, et en particulier, il défend la politique antisémite de l'État français, etc. En même temps, il est, par rapport à la collaboration, très réservé, même hostile, notamment à la personne de Pierre Laval. Pourquoi ? Parce qu'il reste germanophobe, anti-nazi, en ce sens qu'il voit le nazisme, non pas comme une forme, il n'est pas anti-nazi par antifascisme ou pour la dénonciation de la question juive vue par les nazis. Il est anti-nazi parce qu'il voit dans le nazisme l'Allemagne éternelle qu'il a toujours combattue. Et dans ces conditions, évidemment, il est sur une ligne de crête qui devient de plus en plus intenable. Ce qui explique qu'effectivement, les Maurrassiens se soient dispersés pendant la guerre. Certains sont allés dans la résistance et d'autres ont fini dans l'ultra-collaboration.
Et alors, si on continue à prendre ce livre des commémorations, parce qu'on découvre une autre notice qui, là aussi, ne va pas manquer de faire polémique, puisqu'elle fait déjà, d'ailleurs, polémique dans le Libération du jour, c'est celle de l'écrivain Jacques Chardon, qui est mort en 1968. Alors, il paraît qu'il faut commémorer la mort de Jacques Chardon. Je ne sais pas pourquoi il faut commémorer sa mort, pas sa première blénorragie, mais en tout cas, il paraît qu'il faut le faire. J'apprends dans cette notice que...
Vous faites vous voulez,
le thème, merci Christophe, que le thème principal d'inspiration de Jacques Chardon est l'amour, c'est ce qui a marqué sa notice. Alors là aussi, il n'y a absolument pas de mention du pétinisme ardent de Jacques Chardon. Alors je vous cite une phrase, je la cite aux auditeurs, « Il n'y a pas de pauvre gouvernement de Vichy, il n'y a que des pauvres Français. Pétain est le seul grand, je le trouve sublime, il est toute la France, je vomis les Juifs, Binda était un intellectuel juif de l'époque, et les Anglais, et la Révolution française, c'est une grande date que 1940, et qui doit beaucoup à 1918, Christophe Prochasson.
Oui, c'est vrai, Jacques Chardon avait été remis un peu au goût du jour par François Mitterrand, qui considérait que c'était un grand écrivain, ce qui n'est sans doute pas tout à fait le cas, je crois, moi, n'avoir
il paraît que c'est un grand historien de l'amour. Que l'amour aussi du maréchal Pétain.
L'Épitalame, qui est un roman inoubliable de Jacques Chardon. Non, je vous suis, je trouve ce choix assez étrange. Il faudrait peut-être essayer d'analyser ce livre avec une optique, enfin en tentant d'y mettre une cohérence idéologique, mais d'où vient-elle, qui en est à l'origine, je ne sais pas. Enfin, c'est un objet d'histoire en tout cas que ce livre.
Non, mais pourquoi la mort de Jacques Chardon?
Eh bien,
je vais pas poser la question à Christophe Rochasson, qui n'en était
pas. Moi, je ne l'aurais pas mis et je ne le sais, je ne le commémorerai pas. mais en effet, c'est quand même un écrivain de seconde zone, il faut bien le dire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une pensée politique qui n'est pas très sympathique. Et pour un État républicain qui est le nôtre, il me semble que Émoras et Chardon, ça fait beaucoup.
Olivier Dard.
Oui, alors, sur Chardon, sur la partie effectivement historique de Chardon...
C'est une appréciation personnelle,
non, non,
Olivier.
Non, non, c'est aussi... Je suis pas un grand amateur des romans de Chardon non plus.
Mais là, on est en train de casser notre réputation de neutralité.
A priori, on s'en moque.
En revanche, Chardon est quand même un personnage pour le coup historiquement important, au-delà de son aspect écriture, d'écrivain lui-même, par son rôle d'éditeur. Il a été un grand éditeur, notamment chez Grasset, et il a été également un grand épistolier avec Paulhan, etc. Donc,
avec Morand, j'ai lu des lettres qui sont accablantes.
Ou De Gaulle, c'est Gaulle. Oui, non, mais j'ai lu la correspondance Morand-Chardon et Paulhan-Chardon. Bon, donc, il y a effectivement un personnage qui, cela étant, on parlait effectivement du rapport à Maurras et au rapport à l'Allemagne. Là, le rapport à l'Allemagne est tout à fait différent. Chardon fait partie du voyage de Weimar de 42. Maurras, évidemment, n'y aurait jamais mis les pieds. Et également, un élément intéressant, c'est qu'il y a dans la relation effectivement à l'Allemagne quelque chose de tout à fait différent, on ne trouve pas chez Chardon la germanophobie du tout, comme chez Morand d'ailleurs.
Germanophonie, ce qu'il déteste, c'est Churchill.
Oui,
mais c'est ça, il a trouvé mais, qui était son
oui,
son
mais ça,
ami.
Bon, si vous voulez, le rejet des Anglais. Vous savez, le texte que vous lisiez sur Pétain, dans la France des années 40-41, il y a un culte Pétain. D'ailleurs, qui a été étudié par les historiens, qui a eu un culte Pétain. Simplement, effectivement, avec Chardon, ça a duré jusqu'au bout. D'aucuns ont pu avoir un culte au début, partir par la suite. Bon, mais on n'est pas là, effectivement, pour faire l'histoire compliquée de cette période. Cela étant, la question, effectivement, du choix, nous, c'est le problème du Haut Comité.
Parce que Christophe Rochasson, vous diriez que, par exemple, pour Céline, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Le fait que Céline est aujourd'hui considéré comme un grand historien.
Écrivain.
Écrivain, pardon.
Pas historien. Oui, plus important pour la littérature que Chardon,
c'est sûr.
Ouais.
Là, pour le coup, ça justifiait le fait qu'on commémore cet homme.
Oui, il me semble que Céline relève du canon, alors toujours discutable, on peut toujours remettre tout en cause, mais du canon littéraire national, et que l'œuvre de Céline a une dimension que n'a pas, pour l'instant en tout cas, l'œuvre de Chardon, jusqu'à ce qu'on fasse sans doute des découvertes esthétiques dans l'œuvre de Chardon. Mais je reviens sur le fond de la question. Dans l'idée de commémoration, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une dimension de valeur. On choisit, on fait un choix qui n'est pas d'un ordre strictement scientifique. On n'a pas une démarche historique au sens où nous l'entendons, nous, c'est-à-dire un travail de mise en évidence d'un moment, d'un personnage avec toute sa complexité, ses ambivalences. Ça, c'est le travail des historiens. Le travail du choix commémoratif est tout à fait d'un autre ordre. Et je trouve en effet étrange, on peut dire que Chardon a été un grand éditeur, il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Il y a eu des journalistes à l'appel qui mériteraient sans doute aussi d'être étudiés. Mais commémorer relève, je le répète, d'un choix, et ce choix-là peut être interrogé comme relevant d'un choix politique.
Je vois par exemple que le centenaire de la mort d'Émile Durkheim a été célébré dans la plus grande ignorance,
exactement,
dans le plus grand silence.
Vous avez
ce qui est quand même inouï de mettre la mort de Jacques Chardon alors qu'on n'a rien fait du tout pour Émile Durkheim.
Et nous avons célébré le bicentenaire de Karl Marx. Alors certes qu'on pourrait, certains pourraient traiter comme le père du goulag, mais enfin bon, je pense que nous sommes un peu sortis de ce genre d'ânerie. On verra si le bicentenaire de la naissance de Marx. Alors, il n'est pas français, me direz-vous. Mais enfin, il y a un Marx français, et vu l'importance qu'il a tenue dans le débat politique et culturel de notre pays, qui mériterait peut-être aussi d'être commémoré.
Olivier Dard.
Oui, non, mais bon, je souscris à ce que disait Christophe Rochasson sur effectivement le rôle des historiens et leur notre différence par rapport à ces choix de commémoration. Nous, c'est pas effectivement directement notre problème. Bon, maintenant, c'est une responsabilité effectivement politique. Bon, ce qui me frappe, cela étant, et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un danger véritable dans l'histoire dans la question des commémorations en France, c'est qu'encore une fois, nous avons des mémoires extrêmement fracturé, et ce qui se joue là sur Maurras Chardon, on pourrait imaginer, alors évidemment il est évident qu'il y a une mémoire plus traumatique en direction sans doute de ces auteurs marqués du côté des droites radicales qu'il y en aurait peut-être de l'autre côté, mais je ne doute pas qu'il pourrait y avoir des problèmes autour de telle ou telle figure, et de ce point de vue, je crois que ça ne doit absolument pas empêcher deux choses. D'une part, les recherches historiques de se poursuivre, et deuxièmement, les rééditions d'un certain nombre de textes et de documents avec des sécrétions critiques de se poursuivre.
Avec toutefois une petite nuance, Olivier Dard, je pense qu'il ne faut pas que la commémoration commande les travaux historiques.
Ah, donc ça,
il y a une espèce de tendance. Il y a une espèce de tendance qui est que, pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer, mais que les historiens parfois se calent sur les commémorations.
Ils sont peut-être aussi éditoriales.
Oui, mais
Christophe Rochasson, désolé de songer à des choses impures.
Mais non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a des enjeux économiques et je dirais de positionnement dans le champ qui expliquent ce type d'attitude.
Mais d'ailleurs, les éditeurs vous disent en réalité que ça ne change pas grand-chose. Alors, faudrait savoir. Mais en même temps, ils tiennent absolument à faire coïncider les commémorations et les éditions.
Merci beaucoup d'avoir échangé au sujet donc de cette commémoration plus que controversée. Christophe Prochasson, je rappelle que vous avez notamment publié une contre-histoire de la Troisième République et également les grandes dates de la République de 1792 à nos jours, c'est chez Dalloz. Olivier Dard, vous avez publié un dictionnaire du conservatisme, c'est au CERF. Et Charles Maurras, Le Maître et l'Action, chez Armand Collin.